France Inter.
Bonjour à tous et bienvenue au sommaire aujourd'hui. Le droit à l'aide à mourir va-t-il voir le jour en France ? Étape décisive cet après-midi à l'Assemblée nationale avec le vote des textes sur la fin de vie. Mais l'issue du scrutin s'annonce serrée et le calendrier est chargé pour une adoption avant la présidentielle. Explication dans un instant. À suivre encore le groupe d'électroménager français SEB. Bonjour Luc Chemla.
Bonjour.
Qui est à la peine.
Oui, et qui prévoit de supprimer jusqu'à 2100 postes dans le monde, dont 500 en France. Connu pour ses marques Moulinex, Tefal ou encore Roventa, le groupe veut retrouver de la rentabilité face notamment à une féroce concurrence chinoise. La direction a accepté de s'exprimer pour s'expliquer, vous l'entendrez.
On va vous retrouver dans un instant. Le lancement réussi du livre de Gisèle Pélicaud. Plus de 60 000 ventes en une semaine, nous écouterons ses lecteurs. Moins de visiteurs au salon de l'agriculture, nous y serons. 30 morts dans des avalanches en montagne depuis le début de l'hiver, nous verrons pourquoi. Et puis notre reportage au Sénégal, où les personnes homosexuelles font l'objet d'une vague de répression.
J'ai eu plusieurs problèmes au Sénégal à cause de mon orientation sexuelle. Je me suis fait agresser plusieurs fois, j'ai fait de la prison. Ça me révolte, ça m'énerve et ça me rend très triste de savoir qu'il y aura beaucoup d'autres vies qui vont basculer.
Et ils sont nombreux à fuir le pays. À partir de 13h30, quelles leçons tirées de la tempête Niels ? Elle a privé des millions de Français de courant pendant plusieurs heures. Les derniers foyers n'ont été raccordés qu'hier. Le directeur technique d'Enedis est notre invité. 01 45 24 7000 pour vos questions et témoignages. 13h50, c'est la France. Mangeons-nous mieux qu'avant ? Se demande Eric Fotorino du 1 Hebdo. Juste avant 14h, c'est une chanson. L'actrice Pauline Clément demande Roxy, extrait de la comédie musicale Chicago.
Quand on fait cette chanson, il faut un peu aller dans un jeu, puis un peu se remonter les manches, quoi. Donc j'ai toujours un peu eu ce rêve, je crois, de faire des spectacles, chanter, danser.
Pauline Clément à l'affiche aujourd'hui du film Chers parents avec André Dussolier. Puisque nous sommes mercredi, nous parlerons donc aussi de cinéma avec les conseils d'Alexis Demeyer. Voilà, vous avez le programme. Merci de passer cette heure avec nous.
France Inter.
Le débat sur le droit à mourir a été long. C'est le moment de le faire. Nous le ferons, avait promis en septembre 2022 Emmanuel Macron à l'actrice Lynn Renault. Mais aujourd'hui, rien n'est fait. La Convention citoyenne sur le sujet a rendu ses conclusions au printemps 2023. Il a fallu attendre le printemps 2025 pour que deux textes, deux propositions de loi soient enfin déposées. L'une consensuelle sur les soins palliatifs, l'autre qui divise sur la création d'un droit à mourir. Ces deux textes sont donc mis au vote pour la deuxième fois cet après-midi à l'Assemblée. Et autant le premier vote en mai dernier a été une formalité, autant celui-là s'annonce serré. Alors qu'est-ce qui a changé dans ce débat ces dernières semaines ? On va essayer de comprendre avec Alice Cachaner et Julien Nenny. Bonjour à tous les deux.
Bonjour.
Vous suivez tous deux les débats ces derniers jours. Alice, plusieurs responsables politiques de droite, mais aussi macronistes, disent depuis quelques jours qu'ils ne se reconnaissent plus dans ce texte. Au fond, qu'est-ce qui a changé ?
En fait, ce qui a changé, c'est le mode d'administration du produit létal. Le sujet est si sensible qu'il va être remis en délibération cet après-midi avant le vote solennel. En fait, eh bien, en deuxième lecture, l'Assemblée a adopté de justesse des amendements de la gauche qui laissent la possibilité aux patients de choisir librement s'il administre lui-même le produit létal ou si un médecin, un infirmier réalise ce geste ultime. Dans la version adoptée l'an dernier, l'intervention d'un tiers était l'exception. À part ça, eh bien, le texte a assez peu évolué, toujours les mêmes 5 critères cumulatifs pour prétendre à l'aide à mourir. Le discernement du patient doit être libre, éclairé, sa maladie incurable en stade avancé, terminal, avec des souffrances insupportables. Un seul mot a été rayé, l'adjectif constant pour qualifier les douleurs insupportables donc des patients. En revanche, des verrous plus sécurisants ont été ajoutés, comme l'obligation de faire sa demande par écrit. Obligation également pour les médecins d'arrêter le processus d'aide à mourir s'ils constatent par exemple que le patient subit des pressions de son entourage. Les députés ont à ce titre créé un délit d'incitation qui prévoit des peines d'1 an de prison et 15 000 euros d'amende.
Et donc Julien Nenny, tout cela laisse augurer un vote plus serré qu'il y a quelques mois.
Oui, sur un sujet aussi intime, personnel que la fin de vie, les clivages gauche-droite sont moins marqués dans l'hémicycle. Impossible donc d'avancer un chiffre, une estimation avant le vote prévu en fin d'après-midi. Mais oui, clairement, on sent que la dernière version du texte amendée par la gauche crispe beaucoup de députés, notamment ceux du Bloc central. Par exemple, Agnès Firmin-Lebaudeau du groupe Horizon est en pointe sur ce texte.
J'ai eu l'honneur de diriger ces travaux lorsque j'étais ministre et on arrivait À me poser la question de savoir si je vote ou pas ce texte me fend le cœur et me met en une situation difficile. Mais je le redis, notre pays, notre modèle français, c'était un chemin de crête et ce chemin de crête a été rompu.
Ce qui coince pour elle, Alice en parlait à l'instant, c'est cette autodétermination qui n'est plus la règle dans la version actuelle du texte, de quoi faire basculer certains votes du pour vers l'abstention ou de l'abstention vers le contre.
Si bien que ce texte pourrait ne pas être adopté avant la fin du quinquennat ?
C'est le risque, en effet, Jérôme, vu l'embouteillage du calendrier à l'Assemblée et vu la navette parlementaire que le texte devra de toute façon emprunter après le vote du jour. Le temps presse, donc, d'autant qu'Emmanuel Macron avait fait, vous vous en souvenez, pendant ses vœux, là, le 31 décembre dernier, avait fait cette loi sur la fin de vie, l'un de ses trois grands objectifs de l'année 2026, après une convention citoyenne en 2023 et des dizaines d'heures de débat au Parlement. Si c'est un échec, ça affaiblira encore un peu plus le bilan déjà maigre du second quinquennat. Voilà pourquoi l'entourage du président réaffirme ce matin que l'option du référendum reste sur la table, même si elle reste très improbable.
Julien Nenny, service politique de France Inter, Alice Cachaner, service sciences, santé, environnement. Merci à tous les deux. Le vote à partir de 15h cet après-midi. Hier soir, deux personnes ont été placées en garde à vue après avoir participé à un rassemblement qui n'était pas autorisé devant l'Assemblée. Il s'agissait d'une manifestation d'une cinquantaine de personnes opposées à l'euthanasie. À l'Assemblée nationale, la députée Rassemblement national de la Drôme, Lisette Pollet, annonce qu'elle licencie l'un de ses assistants parlementaires en cause des publications contraires à ses valeurs. Fin de citation. Il s'agit de messages publiés sur les réseaux sociaux avec des contenus impardonnables, selon les mots d'un autre député RN, Jean-Philippe Tanguy. Quand la porte-parole du gouvernement, Maud Bréjon, elle a chargé ce matin la France insoumise. C'était lors du compte-rendu du Conseil des ministres. Bonjour Marie Mollet.
Bonjour.
Vous êtes à l'Élysée. Maud Bréjon dénonce le rapport du mouvement insoumis avec la presse.
Oui, nouvel angle d'attaque contre la formation de Jean-Luc Mélenchon avec cette charge de Maud Bréjon ce matin. Elle dénonce le rapport inquiétant, dit-elle, de LFI à la démocratie et notamment à la presse, citant en exemple cette conférence de Jean-Luc Mélenchon sur les nouveaux médias dont l'accès a été interdit à la presse traditionnelle.
Qu'en démocratie, on puisse à ce point piétiner le travail des journalistes, ostraciser une large partie de la presse et tenir de tels propos, c'est profondément inquiétant et ça relève d'un rapport. La France insoumise a aujourd'hui un rapport que je qualifie de totalitaire et complotiste avec tout ou partie de la presse.
Le gouvernement qui poursuit donc sa charge contre la France insoumise dans le sillage de la mort de Quentin de Ranc. Hier à l'Élysée, réunion sur le thème des groupes violents et de leurs liens avec les formations politiques, avec dans le viseur les liens entre LFI et la Jeune Garde. Les insoumis sous le feu des critiques, mais y a-t-il une limite? La ministre déléguée Aurore Bergé l'a visiblement franchie ce week-end. Elle avait appelé à faire barrage à LFI coûte que coûte en suggérant que le RN devrait se retirer dans les villes où les insoumis pourraient gagner, autrement dit un accord électoral implicite avec le parti d'extrême droite. Sortie de route, recadrée ce matin par la porte-parole du gouvernement, en accord avec Matignon. Ni RN ni LFI, a-t-elle répété. Il n'empêche, la position a bougé. Il est loin le temps où le gouvernement appelait au cordon sanitaire anti-RN sans condition. C'était en 2024 lors de la dissolution.
Marie Mollet avec les moyens techniques de Benjamin Reyes. Au Sénat ce matin, c'est le président d'Alpes 2030, le comité d'organisation des prochains Jeux d'hiver en France, Edgar Gros-Piron, qui passait sur le grill alors que le projet patine et que les départs se sont succédés ces dernières semaines. Dernier en date, celui de Cyril Linette, son directeur général, officialisé ce matin, juste avant cette audition que vous avez suivie. Bonjour Fabrice Abgral.
Bonjour.
Edgar Gros-Piron a tenté de rassurer.
Oui, en effet, il devait faire le point sur l'avancement du projet et s'expliquer sur la crise de la gouvernance. Et sans tarder, Edgar Gros-Piron a été interpellé sur la démission de trois cadres du COJOP et le licenciement du directeur général. Pour les expliquer, Edgar Gros-Piron évoque un problème organisationnel.
C'est une organisation en râteau où un directeur général avait 12 directions en direct. Le management de ces 12 directions était assez compliqué parce que ça nécessite de passer quand même beaucoup de temps avec chacun. Et quand on n'a pas le temps, ben on ne va pas forcément au fond des sujets. Ça peut expliquer certaines démissions.
La carte des sites n'est pas encore définitive. 85% des lieux sont connus. Mais sur ce point, Edgar Gros-Piron reconnaît 4 mois de retard.
Les 15% qui nous restent concernent la répartition des épreuves de ski alpin entre Courchevel et Val-d'Isère, le site d'Oval de Vitesse qui est en cours d'instruction entre l'Italie et les Pays-Bas, et enfin les sports additionnels. Donc, on a pris un peu de retard.
Edgar Groupiron est là, dit-il, pour garantir la solidité et la bonne conduite du projet Alpes 2030, et pas question de démissionner.
J'ai toujours été et je suis toujours à 100% impliqué et investi dans ce projet.
Edgar Groupiron, souvent confus, parfois hésitant ou approximatif, n'a pas véritablement convaincu, ce que regrettaient certains sénateurs, dénonçant le manque de clarté du président du COJOP. L'un des sénateurs a même soumis l'idée d'adjoindre à Edgar Groupiron une personnalité politique à ses côtés, comme l'avait été Michel Barnier auprès de Jean-Claude Killy pour les Jeux d'Albertville en 1992.
Merci Fabrice Abgral. Restons en montagne avec cette saison de ski qui n'est pas encore terminée, mais avec un bilan extrêmement lourd. Déjà 30 morts en raison des avalanches uniquement dans les Alpes. Les deux dernières victimes, dimanche, deux femmes parties en ski de randonnée à la Chapelle d'Abondance en Haute-Savoie et qui ont été retrouvées avant-hier. Bonjour Erwan Chassin.
Bonjour.
Quelles sont les explications des professionnels de la montagne?
Eh bien, il faut d'abord regarder la météo et l'état du manteau neigeux depuis le début de l'hiver. Il est particulièrement instable, observe Denis Roy, responsable du Centre des Alpes du Nord de Météo France.
Alors tout d'abord, un hiver précoce avec des chutes importantes fin novembre, puis une longue période sans chute de neige. Et curieusement, cette absence de chute de neige a favorisé la formation de crins de neige qui vont créer de fortes instabilités dans le manteau neigeux.
Est venue s'ajouter une très importante séquence neigeuse ces 15 derniers jours sur les massifs, plus de 2 mètres dans certaines stations.
Ces instabilités et ces fortes chutes de neige créent des avalanches à la fois nombreuses et aussi de grande ampleur.
Un millefeuille de couches de neige fragiles, mais ces conditions hors normes, elles attirent forcément les adeptes, souvent même chevronnés, du hors-piste. C'est ce que constate le lieutenant Nicolas Chaon du peloton de gendarmerie de haute montagne de Briançon.
Il y a des pratiquants donc, de montagne qui, eux, sont à force de prévention et d'information, sont parfaitement au courant des risques. Mais le plaisir en fait, d'aller en montagne et puis de skier hors-piste sont toujours un peu plus importants que finalement la sécurité face aux risques avalanches.
Certaines municipalités comme la Clusaz ont donc décidé de serrer la vis, mesure exceptionnelle. Jeudi et vendredi dernier, le maire a interdit la pratique du hors-piste sur sa commune. Le risque avalanche était alors de 5 sur 5. Il sera moins élevé ces prochains jours. Toutefois, le redout va déstabiliser là encore le manteau neigeux selon Météo France. Imprégné d'eau de fonte, les avalanches seront plus lourdes et plus destructrices.
En effet, merci à Erwan Chassin. Douceur exceptionnelle sur la France en ce moment. Des écarts de température entre 10 et 12 degrés au-dessus des normales de saison sur la moitié nord. Il va faire jusqu'à 25 degrés cet après-midi dans le sud-ouest. Côté cru, il n'y a plus de département en vigilance rouge. Alors on souffle, exemple en Loire-Atlantique, à Saint-Joachin, en Brière. Malgré la montée des eaux, l'EHPAD de la commune n'a pas été évacué car les salariés se sont relayés pour écoper, avec aussi le coup de main bienvenu de la protection civile. Sur place, Hélène Roussel.
Nadine, la cadre infirmière, nous guide.
Vous inquiétez pas, là, comme c'est aspiré, on n'a pas besoin de bottes.
En bas des marches, un long couloir, avec de part et d'autre les serveurs informatiques, les tableaux électriques, la lingerie et les bruits. Ici, la pompe, là, l'aspirateur à eau.
Et c'est comme un robinet, vous voyez.
C'est en permanence. En si vous vous arrêtez, ça continue de monter.
Et ben on aurait 1m50 en fait ici. Hein. C'est un cercle en fait. On aspire, on rejette dehors, l'eau rentre jusqu'à temps qu'il y ait une décrue.
Nous, on a lancé une nouvelle botte, les bottes à l'EHPAD.
C'est ça.
Valérie, assistante de gestion à l'EHPAD, et puis depuis une semaine, je suis plutôt au sous-sol à racler. On s'est pas posé la question, hein. Fallait agir, quoi.
Par équipe de 3, avec des relais en permanence, quoi.
Donc pas de dodo, rien du tout, quoi.
Des petites siestes.
Le carrelage soulevé par l'eau, les plaintes, les murs qui suintent, les toilettes noyées, les dégâts sont bien là, mais le pire a été évité, l'évacuation des résidents.
C'est pas une école, quoi, c'est pas un collège, hein. On les met pas dans un car et ils s'en vont, hein.
À l'étage, c'est l'heure du déjeuner, comme si de rien, contraste d'ambiance saisissant.
J'espère qu'on ne parviendra pas. C'est trop bien ici.
C'est eux qui ont tout pompé l'eau, nuit et jour, vous saviez ?
Nuit et jour, oui, oui. Je leur dis chapeau, moi. Hein.
Merci. C'est pour eux, c'est vraiment pour eux.
Vraiment, c'est les résidents qui priment.
Reportage ici, Loire-Océan. Et puis ce grave accident de la route la nuit dernière dans le Pas-de-Calais, commune de Libercourt. Collision frontale entre deux voitures, l'une avec 4 jeunes de 15 ans à bord, donc tous mineurs. Ce véhicule circulait à grande vitesse, il aurait grillé un feu rouge, selon le témoignage du maire de la commune. Deux de ces jeunes sont morts, les deux autres sont grièvement blessés. Dans l'autre voiture, c'est un homme de 39 ans qui est mort.
France Inter, le 13-14... Jérôme Cadet.
Plus 10%, les nouveaux droits de douane imposés par les États-Unis sont entrés en vigueur hier après l'annulation des précédents par la Cour suprême. 10% donc pour tout le monde. Les pays sont contents, a tranché hier soir le président américain Donald Trump dans son discours au Congrès. Pourtant, des entreprises souffrent. C'est l'une des raisons avancées ces droits de douane ce matin par le groupe SEB pour justifier sa décision de supprimer 2100 postes dans le monde, 500 en France. Des départs volontaires, précise la direction que vous avez pu joindre, Luc Chemla. Vous allez nous expliquer. Mauvaise passe pour les marques Moulinex, Tefal ou encore Rovinta.
Oui, qui ont connu une année 2025 compliquée. Le résultat opérationnel du groupe a chuté d'un quart en un an. Parmi les raisons, les droits de douane américains ont évidemment pesé car les États-Unis représentent environ 10% de son chiffre d'affaires. Les distributeurs ont moins commandé, les consommateurs moins acheté dans un contexte, d'après la direction, de perte de pouvoir d'achat. Mais il faut aussi faire face à une concurrence féroce, explique Cyril Buxtorf, en charge de la transformation de SEB.
Avec notamment des concurrents en provenance de Chine qui vendent massivement en ligne, qui ont des coûts beaucoup plus faibles que nous en termes de coûts de structure. Ils n'ont pas de présence industrielle en France, ils n'ont quasiment pas de structure commerciale. C'est des acteurs qui sont effectivement offensifs.
Objectif, faire au moins 200 millions d'euros d'économies dans les prochaines années, améliorer son efficacité industrielle, mais surtout...
C'est un plan d'ajustement à un monde qui change, à un marché qui change, pour relancer notre dynamique de croissance.
Et qui implique une réorganisation. Le groupe veut rapprocher ses équipes de recherche des équipes de production, car aujourd'hui, la moitié de ce qui est fabriqué en Asie est développé en France. SEB veut aussi tripler sa présence sur les réseaux sociaux, en s'appuyant notamment sur l'intelligence artificielle. D'ailleurs, les suppressions de postes vont principalement toucher le marketing, la RH, la logistique ou encore la finance. La CGT, de son côté, déplore un plan très violent et appelle à des mesures fortes pour protéger notre industrie et notre économie.
Explication signée Luc Chemla. Au salon de l'agriculture, on pouvait s'y attendre en l'absence des vaches. Le public n'est pas au rendez-vous. Fréquentation en baisse, moins 25% sur les 4 premiers jours. Vous en avez eu la confirmation, Édouard Marguier, en discutant avec les exposants, mais aussi avec les commerçants de la Porte de Versailles à Paris.
Il y a beaucoup moins de clients dans les restaurants situés en face de l'entrée du salon de l'agriculture.
Ah ouais, complètement. On est à entre, je dirais, selon les journées, entre moins 50 à moins 70% de chiffre d'affaires par rapport à l'année dernière.
Élodie Quédé tient le café Victoria depuis 7 ans.
C'est la première fois que je le vois. Le repas du midi, on a l'habitude sur le salon de l'agriculture de ne pas beaucoup travailler parce que les gens restent à l'intérieur. Mais notamment le petit déjeuner, c'est très très calme cette année. Mais on sent qu'il y a beaucoup moins de fréquentation. Même dans la rue, on voit qu'il y a moins de mouvement, moins de monde.
Même constat à l'intérieur du salon. Stéphane Marguet tient un stand depuis 10 ans pour proposer ses alcools distillés en Franche-Comté. L'absence des bovins attire moins, selon lui.
Oui, je pense que ça joue. La clientèle habituelle qu'on voyait chaque année, ben là, on l'a vu un peu moins, effectivement.
Ce que confirme le directeur du salon de l'agriculture, Arnaud Lemoine.
Clairement, un salon sans vache, on sent qu'il manque quelque chose. Il manque une odeur, il manque une saveur, il manque quelque chose dans ce salon. Pour autant, il y a tous les autres animaux, toutes les autres animations. Mais pour les Français, on voit bien que les gens voulaient les vaches.
Il espère une remontée d'ici dimanche. Le salon de l'agriculture, c'est en moyenne 600 000 visiteurs chaque année.
Après le salon de l'agriculture, une autre institution, le musée du Louvre, qui change de patron, exit Laurence Descartes, qui a remis sa démission hier, quelques mois après le vol d'une partie des joyaux de la couronne. Son successeur se nomme Christophe Le Ribaud, l'actuel président du château de Versailles. Il a été nommé ce matin par Emmanuel Macron. Bonjour Victor Vasseur.
Bonjour.
Christophe Le Ribaud, un fin connaisseur des musées parisiens.
Passé par le musée Carnavalet, le musée de la Croix et surtout le Petit Palais pendant 9 ans, qu'il a métamorphosé devenant un lieu incontournable de la capitale. Au musée d'Orsay, Christophe Le Ribaud accroît la fréquentation, mal en point après le Covid, grâce à des expositions consacrées à Édouard Munch et Van Gogh, historien d'art spécialiste du XVIIIe siècle. Christophe Le Ribaud, 62 ans, est décrit comme un homme de consensus, affable et bienveillant. Il aura passé 2 ans au château de Versailles. Il évoquait sa feuille de route au micro de France Musique à l'été 2024.
L'enjeu, c'est surtout d'ouvrir le plus possible le château, ne pas oublier en cours de route les jeunes, cette mission de connaissance de l'histoire qui doit aller au-delà de l'enjeu touristique, évidemment, d'un lieu comme celui-ci.
Christophe Le Ribaud connaît bien le Louvre, ancien directeur adjoint du département des arts graphiques dans les années 2000. Le musée, encore hanté par le vol des joyaux de la couronne et qui voit sa fréquentation diminuer à cause de la grève perlée des personnels. Parmi ses dossiers, renforcer la sécurité du bâtiment et le moderniser. Christophe Le Ribaud devra aussi piloter le chantier titanesque, l'ouvre nouvelle renaissance contestée en interne avec son budget d'1 milliard d'euros.
Victor Vasseur, le livre bénéficie d'une exceptionnelle campagne de promotion et il trouve visiblement son public. 63 000 exemplaires vendus en une semaine pour le livre témoignage de Gisèle Pellicot intitulé « Et la joie de vivre ». Un livre numéro un des ventes. Petit point de comparaison, le journal d'un prisonnier de Nicolas Sarkozy s'était vendu, lui, à 100 000 exemplaires en première semaine en décembre dernier. Donc c'était un peu mieux, mais ça n'enlève rien au succès du livre de Gisèle Pellicot. Bonjour Camille Marigaud.
Bonjour.
Vous êtes allée à la rencontre des lecteurs, lectrices en librairie.
Oui, comme dans celle de Sandrine Babu, où le livre est bien exposé en vitrine et sur les étals dès l'entrée. Une vingtaine d'exemplaires commandés pour le jour de la sortie, c'est beaucoup pour une librairie de cette taille et il a fallu rapidement refaire du stock.
On l'a bien vendu dès le premier jour et donc on a été un peu en rupture de stock, ce qu'on n'avait pas prévu assez. On avait eu des précommandes aussi, ce qui n'est pas le cas pour tous les livres.
Et là, vous en avez des commandes ou pas?
En cours, oui, j'en ai qui sont de côté, là, pour des personnes qui vont venir les chercher.
Salomé entre avec sa petite fille. Elle compte acheter le livre après avoir suivi l'affaire.
C'est son histoire, la façon dont elle le raconte, et c'est ses mots à elle. Et en permettant à toute ma génération aussi, et celles qui viennent après, d'être un peu plus libre et connaître son histoire.
Et dans cette autre librairie du centre de Paris, Et la joie de vivre est en tête des ventes depuis sa sortie et dans les mains de Manon.
J'ai rien à l'offrir à ma grand-mère et à ma maman, parce que de ce que j'ai compris, ça touche toutes les femmes, même les hommes.
Et les lecteurs sont également au rendez-vous, selon plusieurs libraires, qui nous disent aussi que beaucoup, femmes et hommes, achètent l'ouvrage, surtout pour exprimer leur soutien à la démarche et au courage de Gisèle Pellicot.
Merci Camille Marigaud. L'affaire des laits infantiles contaminés par une toxine. L'Union européenne renforce ses contrôles aux frontières sur les importations en provenance de Chine. À partir de demain, les douanes devront contrôler 50% des envois à entrant dans l'Union et en provenance de Chine de cette substance, l'huile riche en acide arachidonique, substance qui serait à l'origine de cette contamination selon les enquêtes sanitaires. L'actualité à l'étranger dominée aujourd'hui par ce durcissement de la loi contre les personnes homosexuelles au Sénégal. Le Premier ministre sénégalais vient d'annoncer le dépôt d'un projet de loi pour durcir les peines qui répriment les relations homosexuelles pour les porter de 5 à 10 ans de prison. Et depuis deux semaines, dans le pays, les arrestations de personnes présumées homosexuelles se multiplient. C'est le reportage à Dakar de notre correspondante Juliette Dubois.
Au Sénégal, on les appelle les Gorjigen, les hommes-femmes en Wolof. Les personnes LGBT sont stigmatisées de longue date, accusées, je cite, d'actes contre nature. La presse locale recense une trentaine d'arrestations pour homosexualité présumée depuis début février. Mais ce nouveau projet de loi va plus loin encore. Le Premier ministre Ousmane Sonko s'est exprimé mardi devant les parlementaires.
Toute personne qui aura commis un acte contre nature sera punie d'un emprisonnement de 5 à 10 ans et d'une amende de 2 millions à 10 millions de francs. Le juge ne pourra prononcer le sursis ni réduire l'emprisonnement au-dessous du minimum de la peine prévue à l'alinéa 1 du présent article.
10 ans d'emprisonnement. Dans ce texte, l'homosexualité est classée dans la même catégorie que la zoophilie, la nécrophilie et la pédophilie. Des peines sont également prévues pour l'apologie de la philosophie LGBT, je cite. Depuis plusieurs mois, des homosexuels fuient le pays. Ce Sénégalais réfugié en France suit l'évolution de la situation avec inquiétude.
J'ai eu plusieurs problèmes au Sénégal à cause de mon orientation sexuelle. Je me suis fait agresser plusieurs fois, j'ai fait de la prison. Ça me révolte, ça m'énerve et ça me rend très triste de savoir qu'il y aura beaucoup d'autres vies qui vont basculer. Ces personnes sont des personnes honnêtes, ils ne font rien de mal.
Le projet de loi a été transmis à l'Assemblée nationale et devrait être soumis au vote dans les prochaines semaines. Dakar, Juliette Dubois, France Inter.
Au Sri Lanka, au sud-est de l'Inde, arrestation choc ce matin, 7 ans après des attentats contre des hôtels de luxe et des églises bondées, puisque c'était au moment de la célébration de la messe de Pâques en 2019. Ces attentats avaient fait 279 morts. Eh bien, l'ancien chef des renseignements du Sri Lanka a été interpellé. Il est suspecté d'avoir participé à l'organisation des attentats suicides, notamment dans une visée électoraliste, puisqu'il s'était présenté à l'élection présidentielle deux jours après le massacre et avait fait campagne sur le thème de la sécurité nationale. Le pape Léon XIV dévoile un peu de son programme de visite du printemps. Il sera en Afrique du 13 au 23 avril, en Algérie, au Cameroun, en Angola et en Guinée équatoriale. Le pape Léon XIV qui se rendra également le 28 mars à Monaco. Ce qui nous amène au football et à la Ligue des Champions avec des Monégasques qui affrontent ce soir le Paris Saint-Germain en barrage de cette compétition, au match aller en principauté, le Paris Saint-Germain s'était imposé 3-2. L'autre finaliste de la dernière Ligue des Champions, l'Inter de Milan, lui a passé une très mauvaise soirée hier soir, éliminé par l'invité surprise de cette compétition. C'est le club norvégien de Bodø Glimt, 50 000 habitants seulement, et qui file donc à la surprise générale en 8e de finale. Bonjour Antoine Brard.
Bonjour.
Expliquez-nous quelles sont les raisons du succès de cette équipe. Il y a d'abord une recette locale.
Oui, oui, cette équipe est composée presque uniquement de joueurs du pays. Sur les 35 de l'effectif, 27 sont norvégiens. Beaucoup ont même grandi dans cette ville portuaire. La plupart ont été formés à Bodø. Et c'est là aussi l'originalité de Bodø Glimt. On est loin du football business où l'on injecte des millions pour gagner. Le club n'a pas de gros investisseurs. L'été dernier, il n'a déboursé que 6 millions d'euros pour recruter des joueurs. Dans le football moderne, c'est une bouchée de pain. Pour comparer, Marseille a dépensé environ 100 millions d'euros. C'est presque 20 fois plus.
Avec des résultats moins bons en Ligue des Champions.
Oui, les Marseillais n'ont même pas passé les poules. Et puis s'il ne fallait retenir qu'un nom, celui de l'entraîneur, qui est-il? Knudsen. Cet ancien instituteur est arrivé il y a 8 ans au club et avec son jeu offensif, il a tout changé. Il l'a fait monter en première division, remporter 4 titres de champion de Norvège, jusqu'à atteindre l'an dernier les demi-finales de l'Europa League et maintenant briller en Ligue des Champions.
Le succès de Bodø Glimt, décrypté par Antoine Brard. Le cinéma.
Oh capitaine, mon capitaine, tu sautes, moi je saute, pas vrai?
Cours Forest, cours!
Et vos conseils en ce jour de sortie? Bonjour Alexis Demeyer.
Bonjour Jérôme.
On commence par un film iranien intitulé Woman and Child.
Oui, il est signé Saïd Roustahi, cinéaste de 36 ans, à qui l'on doit déjà Leïla et ses frères et la loi de Téhéran. Il s'intéresse cette fois-ci à la destinée d'une infirmière mère célibataire qui se retrouve entraînée dans une spirale patriarcale particulièrement vertigineuse. En dénonçant la misogynie et la corruption du système iranien, Manaz, l'héroïne du film, semble être la porte-parole du réalisateur qui, contrairement à ses confrères Mohamed Razoulov ou Jafar Panahi, n'est pour le moment pas considéré comme un dissident par le régime. Woman and Child impressionne autant par la puissance de son scénario que par sa maîtrise formelle, et il aurait pu mériter d'être récompensé à Cannes l'an dernier où il a été présenté en compétition.
Lui était à Cannes aussi l'an dernier, le son des souvenirs.
Feel something. Dancing love songs. You wake my mother. The sound is invisible. She's sleeping here
right by. Le cinéaste sud-africain Oliver Hermanus adapte ici une nouvelle de Ben Shattuck et met en scène deux des acteurs les plus bankable du moment, Paul Mescal et Josh O'Connor. L'histoire est séduisante. En 1917, à Boston, Lionel et David, deux étudiants en musicologie, partagent une passion pour les chansons folkloriques et tombent amoureux. Mais la Première Guerre mondiale va les séparer. Ce mélodrame explore des contrées reculées, valorise un patrimoine musical oublié et documente habilement la condition des homosexuels dans l'Amérique du début du XXe siècle. Mais l'académisme de la mise en scène et la mièvrerie des dialogues rendent l'ensemble malheureusement totalement dispensable.
C'est dit. Direction le Maroc pour la comédie dramatique Rue Malaga.
Oui, le film a été tourné à Tanger, la plus espagnole des villes marocaines. Maria Angeles, interprétée par la très almodovarienne Carmen Maura, est une mamie de 80 printemps qui voit sa vie basculer lorsque sa fille lui annonce la vente de l'appartement familial et son placement en maison de retraite.
Mamá, si vienes a Madrid, todo se solucionará.
No me iré de Tánger. Yo nací aquí.
Après Le Bleu du Caftan en 2022, la réalisatrice franco-marocaine Mariam Touzani revient avec un film plus personnel dédié à sa grand-mère. On aimerait parfois un peu plus de cinéma dans la mise en scène et un peu moins de naïveté dans l'intrigue, mais Rue Malaga est une œuvre éminemment sympathique qui se déguste comme un Tocino del Cielo, ce flan au caramel dont raffole l'insoumise et touchante Maria Angeles.
Et que vous n'avez pas amené en studio, nous le regrettons tous. Quoi d'autre à l'affiche cette semaine, Alexis?
Is This Thing On, le nouveau film de Bradley Cooper sur un quinca new-yorkais qui se lance dans le stand-up. Scream 7, énième volet de la saga d'épouvante créée il y a 30 ans par Wes Craven. Et Orwell 2+2=5, formidable documentaire de Raoul Peck qui souligne la portée prophétique des écrits de l'auteur britannique.
Merci Alexis Demeyer. Je vous dis à mercredi prochain, 13h29 sur Inter. À suivre dans la prochaine demi-heure, la météo de Céline Dacosta. Puis à partir de 13h30, nous parlons de notre réseau électrique mis à rude épreuve par les tempêtes de l'hiver. Comment réparer au plus vite, comment anticiper, le directeur technique d'Enedis et notre invité 01 45 24 7000 pour vos questions et témoignages. Par exemple, si vous avez été concerné par les dernières coupures. 13h45, notre feuilleton à la découverte du travail cette semaine de la police scientifique. Vous verrez que les empreintes digitales servent toujours. Et puis à 13h50, c'est La France, c'est une chanson. Éric Fotorino, Julien Baldacchino. Bonjour à tous les deux.
Bonjour Jérôme.
Éric, manger, est-ce que c'était mieux avant ?
Ah, je dirais qu'il y a des plus et des moins. La nourriture est davantage contrôlée, mais hélas trop souvent transformée à l'excès. Alors, ne faisons pas trop confiance aux plats cuisinés par l'industrie et cuisinons plus nous-mêmes, Jérôme, au fourneau.
Et avec vous, Julien, une actrice.
Pauline Clément, de la Comédie Française, qui nous parle de son attachement à la chanson Roxy, issue du spectacle et du film Chicago.
Pauline Clément est à l'affiche aussi cette semaine, on va en reparler tout à l'heure.
Ce mercredi, je reçois Neve Campbell à la régulière.
France Inter, 22h, Mehdi Maizi.
L'actrice américaine reprend son rôle mythique dans la saga horrific Scream pour la sortie du 7e opus.
À la régulière.
Avec Neve Campbell, ce mercredi, 22h, sur France Inter.
Quatre anneaux, une évidence. Découvrez l'Audi Q4 e-tron, le SUV compact 100% électrique, en finition S-Line suréquipée. L'incontournable de la gamme, avec une autonomie allant jusqu'à 545 km. À partir de 490€ par mois avec apport. Réservez votre essai chez votre partenaire Audi.
Offre en LLD des 37 mois, 30 000 km, premier loyer de 7 300€ ramené à 2 700€ après déduction de la prime CE. Valable pour toute commande d'une Audi Q4 e-tron dans le réseau participant en France. Offre réservée aux particuliers, si accord par Volkswagen Bank. Conditions sur Audi.fr.
Pensez à covoiturer.
France Inter, partenaire du spectacle Les Femmes Savantes, à vivre en direct dans votre cinéma le dimanche 1er mars à 15h. La troupe de la Comédie Française vous invite à découvrir le grand classique de Molière, mis en scène par Emma Dante. Soyez aux premières loges dans votre cinéma pour la toute dernière représentation du spectacle-événement. Les Femmes Savantes de la Comédie Française, dimanche 1er mars à 15h, en direct au cinéma. Un événement France Inter.
Le temps de votre après-midi.
La météo avec les cafés Malongo. Torréfacteur engagé depuis 30 ans dans le commerce équitable. Les petits producteurs font les grands cafés sur malongo.com.
Bonjour Céline Dacosta.
Bonjour Jérôme, bonjour à tous.
Soleil et douceur cet après-midi.
Oui, c'est vrai, du soleil, un ciel dégagé, soleil généreux quasiment partout. On a bien quelques nuages qui sont un petit peu plus tenaces de la plaine d'Alsace au Val-de-Saône. Quelques entrées maritimes, vous savez, ces nuages poussés par l'air marin sur les côtes du Languedoc-Roussillon et quelques brumes qui résistent sur les côtes corses. Le temps est plutôt sec et ça c'est une bonne nouvelle. Ça favorise l'amélioration franche et généralisée sur l'ensemble des cours d'eau. Plus de vigilance rouge. Juste quatre départements orange, Loire-Atlantique, Maine-et-Loire, Charente-Maritime et Charente. La tendance à moyen terme est d'ailleurs plutôt optimiste, avec des conditions printanières qui vont se maintenir. On aura juste une petite perturbation qui va traverser la France entre vendredi et samedi de façon très atténuée. Entendez par là qu'il n'y aura très peu de pluie.
Et c'est la journée la plus douce de la semaine.
Oui, le pic de douceur ce mercredi. On est par endroits plus 12 degrés au-dessus des normales de saison. C'est le cas dans le sud-ouest. 25 degrés attendus à Biarritz cet après-midi. 22 à Tarbes. Limoges, 21 à Bourges, 20 degrés à Paris, à Lyon, à Caen, 19 à Reims ou Aurillac, 18 à Rouen, 17 à Brest. On a un tout petit 13 degrés pour Strasbourg, ça c'est à cause de la grisaille. Mais cette douceur, elle va largement se maintenir dans les prochains jours.
Céline Dacosta.
France Inter. Le 13-14. Jérôme Cadet.
Bonjour Hervé Champenois.
Bonjour Jérôme Cadet.
Merci d'être avec nous. Vous êtes le directeur technique d'Enedis. Enedis, c'est la filiale d'EDF qui est chargée de la gestion et de l'aménagement de 95% du réseau électrique français. Le reste, c'est RTE qui s'en occupe pour les lignes à haute tension. Mais vous, vous avez en charge l'essentiel du réseau. Un réseau qui vient d'être bien secoué par le passage de la tempête Niels. Il y a eu jusqu'à 900 000 foyers privés d'électricité il y a deux semaines, région Nouvelle-Aquitaine et Occitanie essentiellement. Certains de ces foyers n'ont été raccordés que ces derniers jours. Alors pourquoi cela est-il si long? Comment avez-vous travaillé? Comment vous préparez-vous à ces tempêtes qui vont gagner en puissance, nous disent les scientifiques, liés tout cela au changement climatique? J'attends vos questions, vous qui nous écoutez. 01 45 24 7000. Vous passez également via l'application Radio France et l'onglet Réagir. Hervé Champenois, 900 000 foyers privés de courant. C'est du jamais vu, c'était du jamais vu pour Enedis, du rarement vu.
Alors c'est effectivement du rarement vu, hein. C'est une tempête tout à fait exceptionnelle. Et si on considère le sud-ouest, la dernière qui a une intensité très importante, c'est la tempête Klaus, en 2009, qui avait vu 1 700 000 clients coupés. Donc on est vraiment dans une situation exceptionnelle avec une tempête et des inondations qui ont complexifié les réparations, sachant que cette tempête Niels a été suivie de la dépression Oriana et de la tempête Pedro une semaine plus tard.
Donc il y a eu un enchaînement de tempêtes et de causes. Pour rester sur Niels, vos prévisions, vos modèles ont été dépassés, vous ne l'aviez pas vu venir, pour le dire simplement.
Alors, non, on a vu venir une tempête, ouais. Hein, on a des prévisionnistes, on s'appuie sur des prévisions météo, et à partir de ces prévisions météo, on prépare des renforts, ce que nous avons fait dès le 11 février. En revanche, effectivement, même les prévisions les plus fiables n'avaient pas anticipé un tel niveau de puissance de cette tempête qui a vu, on a les retours maintenant, donc effectivement de la nature de Klaus il y a 20 ans, c'est des temps de retour entre 20 ans et plus de 50 ans sur cette tempête-là, avec les inondations en plus.
Entre 20 ans et plus de 50 ans. Pour comprendre comment vous travaillez, Hervé Champenois, vous avez une cellule météo, vous avez des prévisionnistes à vous, à Enedis ?
Alors, pour faire face à ce type d'événement, hein, on a un dispositif, parce que, en fait, à Enedis, il y a eu un avant et un après 1999. Ouais. Donc, c'est la fameuse
la tempête du siècle
de 1999. Et donc, suite à cette tempête, on a mis en place la force d'intervention rapide électricité. Et cette force d'intervention rapide électricité comprend 4 grands volets. Un volet qui est de prévoir, d'avoir des prévisions météo, et aussi d'associer les dégâts que l'on peut avoir sur le réseau avec ces prévisions météo. Et on a 3 autres dispositifs. C'est ce qu'on appelle les cohortes, un peu comme les Romains, c'est-à-dire des gens qui sont préparés, susceptibles d'être appelés en cas de tempête. C'est très, très bien organisé avec un chef de cohorte.
Mais c'est des gens qui ne font pas toujours ça comme activité.
Non, non, non.
Vous ne pouvez pas les avoir l'arme au pied à attendre les tempêtes.
Non, effectivement, hein, ils font des travaux de raccordement, des travaux de renouvellement de réseau, que ce soit des salariés d'Enedis ou des prestataires qui ont participé à cette tempête. Donc ça, c'est la première partie. C'est des volontaires hein, qui sont d'ailleurs sur cette tempête-là. On avait des gens en congé qui sont revenus de congé spécialement pour ça. Et on est une entreprise de service public et donc les gens sont vraiment motivés dessus. Donc ça, c'est le premier dispositif. Deuxième dispositif, on a des matériels qui sont prêts. Depuis 1999, on a enrichi notre connaissance des tempêtes. On a des câbles, on a des kits avec les matériels pour réparer. On a aussi des poteaux. Et le troisième, c'est effectivement des cellules de crise au niveau national, mais aussi au niveau régional, pour coordonner et organiser tous les renforts qui interviennent sur le terrain.
Pour qu'on comprenne bien ce qui s'est passé donc les 11 et 12 février, c'est vous qui avez coupé le courant pour des raisons de sécurité, ou bien c'est le réseau qui est tombé parce qu'il y a eu des chutes d'arbres ou d'autres problèmes?
Alors, dans une tempête de ce type, la principale cause de défaut, c'est les chutes d'arbres.
D'accord.
Sur nos réseaux.
Réseau aérien, chutes d'arbres, ouais. Les fils par terre ou des poteaux, et c'est coupé.
Exactement. Okay. Et nos réseaux sont conçus pour se déclencher, c'est-à-dire se mettre en sécurité lorsque l'on a ce type d'événement.
Et donc, vous coupez pas le réseau pour des problèmes de sécurité?
On ne va pas couper préventivement. Ça peut arriver sur, par exemple, lorsque nos équipes passent, on va voir un câble à terre, on va aller le vérifier et on va le mettre hors tension pour le mettre en sécurité. Mais sinon, dans les grandes phases de tempête, on a des automatismes. On surveille le réseau à distance qui nous permet effectivement d'agir, de réalimenter des clients et aussi de garder en sécurité hors tension ces lignes.
Donc là, vent peut-être plus violent que prévu, davantage de chutes d'arbres que prévu et donc davantage de foyers coupés de courant. C'est ça la logique ?
Oui, c'est ça la logique. On avait prémobilisé, hein, grâce aux prévisions que l'on avait, 1000 personnes et on a renforcé jusqu'à 4000 personnes pour faire face à cet événement qui est exceptionnel, c'est-à-dire 1700 techniciens d'Enedis, 1300 prestataires, 600 personnes pour répondre aux clients, et puis le reste pour coordonner les renforts.
La remise en état a pris du temps. Hier matin, hein, seulement pour les derniers foyers dans les Pyrénées-Atlantiques, et encore certains sont toujours, je crois, alimentés par des générateurs. C'est ça, hein, Hervé Champenois ?
Oui, exactement.
Ouais. Ça veut dire 12-13 jours. Pourquoi est-ce que ça a été si long ?
Alors, on, On a effectivement réalimenté 90% des clients en 2,5 jours, en 2 jours et demi. Mais pour autant, on pense bien évidemment, et aujourd'hui je pense en particulier aux clients qui ont été les plus longtemps coupés, parce que c'est une période qui est difficile. Sans électricité, effectivement, c'est compliqué. Et en fait, on avait tellement de dégâts et aussi des inondations qu'on avait des accès qui étaient difficiles, des routes qu'il a fallu déblayer. Et d'ailleurs, je tiens à saluer le travail de tous les maires qui nous ont aidés, qui nous ont remonté des informations sur le terrain pour contribuer au dépannage. Donc c'est la somme des inondations, de toute cette végétation qui bloquait les accès, qui a rendu les dépannages longs pour ces clients qui restaient. Et nous avons toujours des équipes sur le terrain en ce moment pour pouvoir retirer les groupes électrogènes et réalimenter les clients par le réseau.
Vous parliez des maires, Hervé Champenois, message de Franck, je suis maire d'une petite commune de Dordogne. Je voulais mettre en avant le travail formidable de ce service qu'on pourrait assimiler à un service public. Aurélien nous dit, il nous est important de remercier l'ensemble des équipes d'Enedis. Lui, il est en Charente. Ils sont venus en moins de 24 heures rétablir le courant chez nous en Charente, en pleine tempête Nils. Il faut aussi savoir dire quand ça fonctionne bien, nous dit-il. Philippe nous appelle de Bandol. Bonjour Philippe.
Oui, bonjour.
Nous vous écoutons.
Eh bien, jusqu'à présent, vous avez parlé de dépannage. Et oui. Moi, je me demande si on ne pourrait pas aussi faire plus de prévention en essayant d'enterrer plus de lignes, ce qui éviterait, je pense, beaucoup de soucis. Moi, je l'ai fait moi-même chez moi là, auparavant, à mes frais, malheureusement. Et c'était à la fois plus esthétique et après, il n'y avait plus jamais de problème. Les poteaux ne tombaient plus.
Merci Philippe pour ce témoignage et cette question. Hervé Champenois, quelle est la part du réseau qui est enterré aujourd'hui?
Alors, on a donc 1 400 000 km de réseau, c'est considérable, et la moitié est enterrée. Pour information, lors de la tempête de 1999, c'était seulement 20% du réseau qui était enterré.
Donc en 26 ans, on est passé de 20% à 50%.
Oui, à 50%. Alors, Philippe,
il y a un plan d'enterrement de ligne qui se poursuit?
Philippe a raison, j'allais dire, sur les chutes d'arbres. C'est pour ça qu'on a un plan d'investissement entre 2022 et 2040 qui représente 25 milliards d'euros pour sécuriser, moderniser le réseau. Et donc, en fait, pour ça, on s'appuie sur les scénarios du GIEC, les scénarios qui nous prévoient le changement climatique. Et qu'est-ce qui nous dit que nous disent les scénarios du GIEC? Il va y avoir ce niveau de tempête important que l'on a, on va avoir beaucoup plus d'inondations et on va avoir également des canicules l'été. Et donc sur la base de ces scénarios, on a bâti les investissements qui représentent 25 milliards, c'est-à-dire qu'on va enterrer d'ici 2040 22 000 km de lignes qui sont ce que l'on appelle en zone boisée, c'est-à-dire où les arbres tombent, mais on va aussi moderniser des anciennes lignes que l'on a, jusqu'à hauteur de 22 000 km aussi. Donc on va traiter plus de 40 000 km de lignes dans ce cadre-là.
L'idée au final, ça sera d'enterrer combien du réseau? Là aujourd'hui c'est 50%, c'est quoi votre objectif?
C'est quand on monte, on a encore donc 700 000 km de réseau aérien, mais c'est surtout de cibler les zones qui sont les plus fragiles en zone boisée. Si je prends les Landes, par exemple, qui ont été fortement touchées, on a enterré en 10 ans 1000 km et on a encore, bien sûr.
Mais ça veut dire que là, par exemple, pour revenir sur Nîmes, ça se joue à quelques kilomètres près. C'est-à-dire, si vous aviez pu enterrer, je sais pas moi, quelques dizaines de kilomètres de lignes, ça aurait suffi à préserver le réseau?
Quelques dizaines, non.
Peut-être
mais
pas, quelques centaines.
Des centaines, ça permet de limiter l'impact et d'être plus efficace. C'est aussi pour ça, quand on compare avec Klaus, 1 700 000 clients coupés, 900 000. On a une progression, même si, bien sûr, il y a encore beaucoup de travail devant nous.
25 milliards d'euros, c'est vous qui payez ou sont les collectivités locales aussi?
Alors, les collectivités locales jouent leur rôle, jouent pleinement leur rôle avec les syndicats d'électrification. Elles enfouissent également aussi des lignes. C'est ensemble et je voudrais aussi souligner le travail de nos prestataires pour réaliser ces travaux. Mais aussi, si on arrive à faire face à des dépannages comme ça, c'est parce qu'on a des gens qui fabriquent en France. Je pense à Pompadour, dans le Limousin, à côté de Toulouse pour des poteaux béton, ou dans la Loire, qui permettent d'approvisionner des matériels. Et c'est aussi pour réaliser tous ces travaux, parce que ça représente 1,3 milliard par an, une filière industrielle qui est extrêmement importante, au-delà de l'engagement d'Enedis et des collectivités qui, bien sûr, participent.
Avant d'accueillir Jean-Louis qui nous appelle de Marseille, il faut dire que ce sont des interventions très délicates et que vendredi 13 février, donc il y a 10 jours, il y a deux de vos agents qui ont été victimes d'un crash d'hélicoptère. dans l'Aude, Hervé Champenois, ils s'en sont sortis, mais ils ont eu extrêmement chaud.
Oui, alors l'accident d'hélicoptère, c'est des prestataires qui travaillent pour nous. Hein, pour autant, on le considère de la même manière. Ouais. Hein, c'est extrêmement important. On donne, bien évidemment, dans ces phases de dépannage qui peuvent occasionner du stress, de la fatigue. Hein, les gens intervenaient dans de l'eau. Ils avaient des bottes comme des pêcheurs, avec l'eau jusque sous les bras. Et donc, c'est extrêmement important. Donc, on suit les clients que l'on réalimente, mais aussi s'il y a des blessés ou pas. Et là, c'était lors d'un ravitaillement. Et effectivement, les deux personnes n'ont pas eu de graves blessures, mais ça reste bien sûr un événement important que l'on suit.
Il nous reste très peu de temps. Bonjour Jean-Louis.
Bonjour Jérôme, bonjour Monsieur Champenois.
Nous vous écoutons.
Je vais être rapide, peut-être un petit peu dur, mais rapide. Chaque année, les scénarios se répètent. Alors j'entends parler de kilomètres, j'entends parler de milliards, mais chaque année, les scénarios se répètent. Des lignes cèdent, les Français se retrouvent dans le noir. N'est-ce pas vraiment un aveu d'échec technique, Monsieur Champenois? Et le réseau français n'est-il pas devenu structurellement inadapté à la nouvelle donne climatique? Sans parler de Linky qui devait permettre les dépannages à distance, alors que les vrais dépanneurs, ce sont des gens comme vous et moi, avec des bottes et puis des pinces coupantes. Mmh.
Merci Jean-Louis pour cette question, Hervé Champenois.
Oui. Merci Jean-Louis pour le témoignage. Effectivement, vous avez dit c'est dur, c'est effectivement dur. On progresse, hein. On progresse, et c'est vrai que, je l'ai dit, hein, 900 000, on va continuer à travailler parce qu'il faut améliorer ça, c'est sûr. Mais 1 700 000, je le disais en 2009, pour 900 000, Linky nous a permis de faire des diagnostics à distance et d'éviter des interventions inutiles, ce qui permet de cibler comme il faut les dépannages. Et ensuite, notre réseau, il est fiable, il faut quand même le dire. Si je prends l'année 2025 qui vient de se passer, on mesure un temps de coupure, c'est une heure en moyenne. Alors, par an, sur 365 jours fois 24 heures, c'est une moyenne. Alors bien sûr, il y a des gens qui sont coupés plus longtemps, pour qui on travaille pour améliorer ça. Mais dans l'ensemble, on a cette fiabilité aussi, et je pense que ça peut être aussi un élément important, et voire de fierté sur ce que l'on fait.
Merci Hervé Champenois d'avoir été notre invité aujourd'hui et d'avoir répondu aux questions des auditeurs. Directeur technique d'Enedis, 13h46 sur Inter. Merci. Une semaine dans leur vie, notre feuilleton à la découverte du laboratoire de la police scientifique. C'est sa directrice à Paris, Christelle Sircoupé, qui sert de guide à notre reporter Sarah Guibaudot. Alors depuis 20 ans, l'ADN a pris une place très importante dans les enquêtes. Mais les empreintes digitales n'ont pas dit leur dernier mot.
Nous recevons des scellés de la part des enquêteurs sur lesquels nous devons rechercher des traces papillaires. Donc ça peut être des armes, des stupéfiants, ou après ça peut être dans le cas d'homicide, ça peut être des couteaux, voilà, ça peut être divers et variés. La première étape, ça va être d'observer les objets qui sont dans les scellés. On peut avoir sur les doigts, par exemple, du cambouis ou du sang. Ces traces-là seront visibles déjà. Je suis Damien et je suis expert en traces papillaires.
Le nom scientifique des empreintes digitales.
Parce que ça regroupe pas seulement les empreintes digitales, mais aussi les empreintes palmaires et éventuellement plantaires.
Là, par exemple, sur la table, c'est plutôt une munition, un projectile que je vois.
C'est un projectile, effectivement. Alors, sur un projectile déformé comme ceci, on ne va pas forcément trouver grand-chose, mais on va essayer.
Et l'ADN n'a pas totalement supplanté les empreintes digitales?
Les empreintes digitales restent le moyen le plus économique et rapide de faire des identifications. Après, on a des traces qui ne sont pas visibles déjà à l'œil, donc on va utiliser différents réactifs, différents procédés pour les rendre visibles. Sur des surfaces métalliques, sur les surfaces en verre ou plastique, on va utiliser la technique du cyanoacrylate, qui va se polymériser sur les traces et les rendre visibles, soit en blanc, soit en luminescence, si c'est un produit qui est adapté.
C'est plus la poudre avec le pinceau?
Alors la poudre avec le pinceau reste utilisée sur le terrain, mais en laboratoire, le principe, c'est d'utiliser des techniques un peu plus fines. C'est le moyen de différencier deux jumeaux, les empreintes digitales.
Parce que, en revanche, ils ont le même ADN?
Ils ont le même ADN, peut-être avec quelques différences. Maintenant, on peut peut-être arriver à le différencier. Mais le moyen le plus simple et le plus rapide, effectivement, c'est toujours les empreintes digitales. Donc on se base sur trois niveaux de détails sur l'empreinte digitale. Le premier niveau, c'est l'aspect général, la forme. Le deuxième niveau de comparaison, ce sont les minuties, ce sont les accidents que les crêtes papillaires ont lors de leur parcours. Et on peut avoir donc...
Quand les lignes changent de chemin ou qu'il y a...
Deux lignes se rejoignent ou quand une ligne s'arrête.
Une fois, vous avez réussi à identifier un dealer à partir d'une vidéo sur un réseau social, racontez-moi.
Une capture d'écran d'une main qui tenait du stupéfiant. Et on voyait distinctement les crêtes de l'un des doigts. Et nous avons pu obtenir un relevé d'empreinte à partir de cette photo.
Christelle Sircoupet, une fois que vous avez une empreinte digitale ou un profil ADN, il faut le comparer au fichier où il y a tous les profils des délinquants déjà enregistrés. Il y a combien de personnes aujourd'hui qui sont dans ces deux fichiers ?
Alors aujourd'hui, dans ces deux fichiers, il y a 9 millions d'individus au fichier automatisé des empreintes digitales et 4 millions d'individus au fichier national automatisé des empreintes génétiques. Dans ces fichiers, il y a les individus qui ont été condamnés, les individus suspects, tous les individus qui commettent des infractions sont signalisés par les policiers scientifiques de terrain. C'est la prise d'empreintes digitales, mais également la prise d'un prélèvement salivaire.
Et pour en savoir plus, Le crime parfait n'existe pas, le dernier livre de Christelle Sircoupet. La suite demain.
France Inter. Le 13-14.
C'est la France, le mercredi 13h50, le regard d'Éric Fotorino du 1 Hebdo. Aujourd'hui, Éric, vous demandez si on mange mieux aujourd'hui qu'avant.
Alors, je me souviens, Jérôme, de cette réflexion de feu l'agriculteur et écologiste Pierre Rabhi, fondateur du mouvement des Colibris, quand il rappelait qu'autrefois, au moment de passer à table, on disait bon appétit, avant désormais de se souhaiter bonne chance. Cet humour grinçant ne doit pas tout noircir dans nos assiettes.
Ouais, quand même pas.
Hein, surtout à l'heure où nos auditeurs, comme disait mon père, cassent la croûte. Disons d'abord que manger est souvent associé à des souvenirs conviviaux qui remontent aux grandes tablées de l'enfance, si on avait en tout cas la chance de vivre au milieu d'une petite tribu. Peut-être, Jérôme, salivez-vous encore au souvenir des plats qui fleuraient bon jadis les repas de famille, le pot-au-feu du dimanche qui s'étirait dans la semaine en bœuf miroton ou mironton, les deux sont bons au Scrabble et surtout bons à déguster. Les brandades de morue ou les vraies purées de mamie avec un trou creusé au milieu pour le jus de viande et les traces de fourchettes régulières comme des pistes de ski ou des coiffures messieurs. Ma mère cuisinait des poulets à la sauce marga, un poulet frit dans une sauce rouge d'épices avec piment doux, cumin, tomates et patates. Pardon Jérôme, je vous torture, vous qui n'avez pas encore déjeuné, moi non plus d'ailleurs.
Pour la cantine, Éric, les souvenirs, c'était plutôt boîte de conserve.
C'est vrai, mais il y avait toujours du rab pour les affamés. Disons-le, la cantine n'était vraiment pas meilleure hier. On ne risquait pas de s'empoisonner, mais on avait du plâtre dans l'estomac. À la maison, il y avait toujours dans les placards quelques boîtes de raviolis, de petits pois. On a toujours besoin de petits pois chez soi, disait la pub, qu'on ouvrait en cas de dèche dans le frigo. Le fameux chroniqueur culinaire Laurent Mariotte raconte que sa mère, quand elle a vu débarquer les surgelés Findus, a dit que tout de même, c'était bien pratique pour dépanner.
Bah oui.
Mais il rappelle que dans les années 70, les fermes étaient quatre fois plus nombreuses. Pour s'y ravitailler en direct, on vivait au rythme des saisons, pas au rythme des promotions. Résultat, l'industrialisation de la nourriture a conduit à consommer des produits ultra transformés, adaptés à nos modes de vie pressés, mais dangereux à la longue, car trop sucrés, trop salés, trop gras, bourrés d'additifs entre 320 et 350, qui ne devraient pas être acceptés dans une cuisine digne de ce nom. Un travers qui touche aussi les steaks végétariens, ou certaines formules fromagères véganes, signe que le diable est aussi dans le bio.
Et vous avez une route, Éric, un chemin pour mieux manger.
Il faut retrouver les habitudes du Covid. Alors entendez-moi, je veux dire réinvestir notre cuisine pour confectionner nous-mêmes nos repas. Difficile, pensez-vous, c'est question de volonté et d'organisation. En une demi-heure, chacun peut se mitonner un délicieux repas et comme le dit encore Laurent Mariotte, pas besoin de jouer au Top Chef, une omelette accompagnée d'une salade de mâche, c'est déjà de la cuisine. Jouer la carte du local, consommer des produits de saison, aller vers la simplicité, varier les menus, c'est bon pour la santé et j'ajouterai, Jérôme, c'est bon pour le moral.
Merci Éric Fotorino du 1 Hebdo. Mangeons-nous mieux qu'avant, c'est à lire à partir d'aujourd'hui dans le 1 de C'est la France à C'est une chanson. Votre invité, Julien Baldacchino, aujourd'hui est sociétaire de la Comédie Française.
Pauline Clément, qui a un agenda bien rempli en ce moment, elle est à l'affiche de la comédie Chers parents d'Emmanuel Patron, adaptée d'une pièce de théâtre et elle sera sur scène au mois de mars au théâtre des Amandiers à Nanterre dans une une reprise de La puce à l'oreille de Georges Feydeau. Elle se souvient de sa rencontre avec un standard de Broadway, la chanson Roxy, issue de la comédie musicale Chicago.
C'était à l'époque où j'étais dans une école de théâtre et il y avait les élèves de l'école du Conservatoire National qui faisaient une comédie musicale et c'était Chicago. Et déjà, moi, j'avais envie d'aller dans cette école, je voulais passer les concours. Donc quand j'allais les voir jouer, j'étais un peu en fascination, en train de me dire « mais quelle chance, mais ils sont rentrés dans cette école, ils vivent cette aventure-là ». Et là, je les voyais chanter, danser, j'avais un ami qui était dedans, avec qui je travaille toujours, Bertrand Lesclay, qui chantait. Et cette comédie musicale m'a fait complètement rêver. Puis de me dire que c'était des acteurs qui, à la base, sont pas des chanteurs et des danseurs, qui faisaient un exercice comme ça dans un théâtre. On venait les voir, il y avait des numéros, il y en avait qui chantaient quand même super bien, d'autres qui avaient déjà fait de la danse, d'autres pas du tout. Cette chanson, après, elle m'a suivie tout le temps parce que je l'ai fait en cours de chant. Et à chaque fois que je savais plus quoi chanter, j'y revenais toujours. Qu'est-ce que tu veux chanter? C'est la Roxy de Chicago. Puis à un moment, ma prof de chant m'a dit, peut-être qu'on peut tenter d'autres chansons aussi.
Qu'est-ce qui vous touche dans cette chanson?
En fait, c'est du jeu, quoi. C'est un numéro. Ouais, une fille qui se met dans un personnage. Quand on fait cette chanson, il faut un peu aller dans un jeu, puis un peu se remonter les manches, quoi. From just some dumb mechanic's wife, I'm gonna be Roxy. Who says that murder's not an art? Je crois que j'aurais toujours rêvé de faire de la comédie musicale, sauf que j'ai fait trois cours de danse et j'ai arrêté parce que la danse classique c'était trop strict. La danse jazz, on m'a dit que j'étais trop molle, ça m'a trop vexée. Quand la prof a dit Pauline, elle est molle, je suis plus jamais retournée. Les cours de chant, j'adore, j'y vais, mais quand j'ai pas de but, c'est toujours un peu dur. Donc j'ai toujours un peu eu ce rêve, je crois, de faire des spectacles, chanter, danser. And now that I'm a celebrity, I'm gonna have me a swell act too, yeah. Oh yeah, I'll get a boy to work with, someone who can lift me up.
Une performance vocale et de jeu qu'a repris l'actrice Renée Zellweger, c'était dans la version cinéma de Chicago.
Et qui inspire Pauline Clément, notamment pour ses spectacles musicaux à la Comédie Française.
Et après aussi aux Français, Marina Hans et Serge Bagdasarian, ils ont monté Mais quelle comédie, qui était une comédie musicale faite avec enthousiasme par des acteurs, dont pareil certains comme Serge Bagdasarian, Sylvia Berger savent très très bien chanter. Et ce spectacle, je l'avais vu quand j'étais enceinte. J'avais un bébé dans le ventre qui ne bougeait jamais. On me disait toujours, faites attention, il bouge pas, faut le stimuler, faut voir s'il bouge. Et ce jour-là, je me suis assise et pendant 2 heures, j'ai l'impression qu'il a dansé dans mon ventre comme jamais.
J'allais vous demander quelle était pour vous la place de la musique au théâtre, mais en fait, avec l'anecdote que vous venez de raconter avec votre bébé dans le ventre qui se met à bouger au moment où il y a de la musique, j'ai envie de vous demander ce que c'est pour vous la place de la musique dans votre vie.
Moi, je vis avec de la musique tout le temps, je crois. Le silence chez moi m'angoisse un peu. Enfin, pas m'angoisse, mais j'ai l'impression que quand il y a du silence, je sais pas, on va tout entendre, c'est presque gênant. Et quand je mange avec des gens, je dis on va mettre de la musique. Et quand j'aime une musique, c'est par phase, mais c'est en boucle. Quand il y a une musique qui me plaît, je l'écoute, je la réécoute. Dans ce spectacle, c'est les rôles de femmes qui sont vraiment pour moi les plus beaux. Et après, il y a le mari un peu. Enfin, il est drôle parce que lui, il est tout penaud. En fait, les femmes sont hyper puissantes, hyper fortes, hyper malignes. Et c'est vrai que ces rôles, ils sont dingues. Et c'est pas toujours évident de trouver des rôles, que ce soit dans les pièces classiques au théâtre ou là, pareil. À un moment, j'ai passé une audition pour un spectacle chanté. Et puis j'ai dit, mais je comprends pas, oui, j'ai pas un niveau lyrique, mais j'aurais compensé. C'est une scène très drôle, j'aurais compensé avec du jeu. Et puis là, ma prof de chant m'a dit, je crois que c'est plus accepté pour les hommes que pour les femmes. Eux, ils pourront chanter un peu moins bien et compenser en faisant un numéro, un show incroyable. Mais elle me dit, mais dans ce spectacle, les rôles de femmes, il faut qu'elles chantent à la perfection. Et j'ai dit, ah, ça fait chier. Elle a dit, bah oui.
Roxy, extrait du spectacle Chicago, interprété ici par Anne Reinking. C'était le choix de Pauline Clément.
Que vous pouvez donc retrouver au cinéma dans le film Mes chers parents, ça sort aujourd'hui même.
Elle y partage l'affiche avec André Dussolier. Merci
fait.
Julien Baldacchino, je vous dis à demain.